L'atelier de Sylvie Ruault. Nous allons revenir avec elle sur son exposition personnelle « Épreuve d'usine » présentée au Centre d'art de Valenciennes en janvier 2015, faisant suite à une résidence organisée et produite par le Centre d'art. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le contexte de cette résidence ?
Alors, j'étais invitée en effet par l'équipe de l'âge du siège pour une résidence de 3 mois. Et je suis arrivée donc début septembre à Valenciennes et je n'avais aucun projet au départ. Hein. Je suis arrivée vraiment les mains vides et c'était vraiment l'idée en fait, puisque je voulais vraiment m'imprégner de ce que j'allais trouver, puisque moi je ne fonctionne que comme ça en fonction de ce que je trouve. Et trouver en entreprise, en fait, hein, m'imprégner de ce que j'allais découvrir, de savoir-faire, de toutes ces chaînes de production que j'allais visiter. Donc l'idée, c'était, j'ai 300 mètres carrés, donc c'est 300 mètres carrés à actionner. Donc l'idée, c'était vraiment de le remplir, en fait, avec tout ce que j'allais trouver sur place à Valenciennes. Donc, je me suis donné comme contrainte, en fait, de passer plusieurs semaines, voire peut-être un mois, de recherche d'entreprise via les CCI, via tous mes réseaux habituels. Et puis, donc, de jouer un peu à la secrétaire. Donc, il y a tout un truc comme ça qui fait partie vraiment de mon travail, en fin de compte. Et ensuite pouvoir justement rentrer dans les entreprises et rencontrer les gens et ensuite trouver des collaborations possibles.
Comment tu t'y es pris pour approcher ces entreprises ?
Alors en fait c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un travail un petit peu de secrétariat. Hein. Je joue un peu au bluff, hein. Je fais un peu du bluff également, à savoir que je me fais des grilles comme ça, tu vois, d'adresses, que je vais trouver, donc comme je disais, sur le web, via mes propres réseaux, via des salons industriels aussi que je visite régulièrement. Donc je me fais une sorte de tableau. J'envoie des mails, je téléphone. J'essaie de trouver la personne, l'interlocuteur qui pourrait être intéressé. Donc tout ça, c'est vraiment des approches un petit peu à chaque fois différentes. Enfin, mais j'ai pas de recette. Hein. Parfois, il faut que je me vante un petit peu pour intéresser. Mais les gens sont généralement assez amusés. Il y a un petit côté curieux de peut-être de me recevoir. Mais c'est toujours... Pour eux, c'est vrai, une contrainte de temps, de se dire, bon, on va la rencontrer, mais bon, ça, il ne faut pas que ça me prenne trop de temps, etc. Donc ça, je prends ça vraiment en compte, et puis je leur dis, non, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est déjà le premier contact, c'est par mail et par téléphone. Et puis après, s'effectue la visite, où, je dirais, c'est le moment crucial. C'est un moment rapide. Vous faites prendre des décisions très rapidement. C'est comme, c'est là où bon, les yeux sur les choses que je vais voir, ce sont des arrêts sur image ou qui vont vraiment générer tout de suite un projet, enfin des idées. Et il faut que je sois très réactive parce qu'ils ont généralement très peu de temps. Puis c'est quand même un environnement très très particulier que le monde de l'entreprise, quoi. Et j'aime bien cette idée.
Pour revenir au moment où tu contactes les entreprises, est-ce que tu pourrais nous dire l'objet de ta demande ou comment tu la caractérises ?
Généralement, je fais un mail type, hein, c'est-à-dire que, bon, évidemment, avant, je me renseigne de l'entreprise à qui je m'adresse, c'est déjà primordial. Et là, je me présente en tant qu'artiste. Je dis, bon, voilà, je suis actuellement dans votre région et mon travail consiste à travailler avec des matériaux de la région pour rendre compte des savoir-faire de la région. Et voilà, j'aimerais d'abord vous visiter pour comprendre votre savoir-faire, pour pouvoir vous visiter et voir ce que vous faites. Et je dis pas trop grand-chose, quoi. Au départ, je veux pas trop les effrayer. Et puis voilà. Et puis après, je téléphone et après, je peux les harceler au téléphone, hein. C'est possible aussi.
Et donc, au moment où tu rencontres et que tu vas dans l'entreprise, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe, même si tu l'as déjà un petit peu dit, et quels sont tes outils d'archives ou de retranscription de ces visites?
Alors, j'ai toujours un appareil photo avec moi. Un petit appareil facile à sortir. Parce que souvent, bien sûr, il y a le secret industriel qui est là. Et donc, l'appareil photo, c'est pas forcément un objet très conseillé. Donc, au départ, je leur demande évidemment l'autorisation. Je pousse un peu les choses en disant qu'évidemment, mon regard n'est pas forcément l'espion qui va prendre des photos précisément sur la machine. Donc, parce qu'il me voit prendre des photos sur des déchets, sur ce qu'il y a à terre, plus que des fois sur vraiment l'intérêt propre de technique. Enfin, et donc, bon, ça les rassure. Et donc, il y a évidemment cet appareil photo qui est mon compagnon, en quelque sorte. C'est pour ça que j'aime bien me dire que je me sens parfois sculpteur-photographe, peintre-reporter. Enfin, je ne sais d'ailleurs pas exactement où je suis, qui je suis et ce que je fais, voire même si je fais de l'art. Mais en tout cas, c'est vrai que cet appareil photo, pour moi, c'est mon œil. Enfin, ça me permet de évidemment, archiver ces images, de revenir à mon atelier, puis de les regarder à nouveau. Et donc, c'est un deuxième temps, c'est une trace. Donc ça, c'est, voilà, donc c'est l'appareil photo que j'amène.
Est-ce que tu avais des attentes par rapport à ce que tu voulais trouver dans ces usines ?
Oui, en regardant un peu la liste des entreprises, tu sais, je me dis, oh, wow, ça, je connais pas, des chaînes navales, je ne sais pas, enfin, des productions que je ne connais pas. Oui, en effet, ça peut me faire fantasmer, des grosses usines, parce que, voilà, c'est de passer de la petite PME à la grosse entreprise, ça peut être passionnant. Mais j'ai pas, non. L'idée, c'est que vraiment, je prends ce qu'il y a. Même le truc qui me paraît, tu vois, un truc de BTP, fabrication, je ne sais pas, de matériaux pour le BTP. Bon, je me dis, bon, ouais, encore, ça, ce n'est pas le plus bizarre. Mais il y a des trucs, des engrais, etc. Enfin, je ne sais pas, quoi. Mais c'est vrai que... Non, non, moi, tout m'intéresse. Et en fait, je m'aperçois que je veux vraiment tout prendre, quoi. Et je me dis, plus je prends, et j'ai des surprises incroyables. Là où je pensais que ça allait être intéressant, ça l'est moins, etc. Donc je trouve ça génial, quoi. Je veux pas avoir d'a priori, et je prends tout ce qu'il y a.
Et quand tu... dans le tout ce qu'il y a, est-ce que tu t'intéresses exclusivement au rebut des entreprises, ou est-ce que tu sélectionnes, ou tu demandes, ou tu aimerais avoir d'autres éléments?
Le rebut, c'est passionnant parce que c'est un objet qui est créé par accident. Et donc ça crée de la forme, et comme je ne crée pas de forme, Évidemment, ça m'intéresse. En plus, c'est une matière qui est jetée. Donc, pour moi, économiquement, c'est vrai que c'est facile à récupérer. Donc, ça, c'est une première notion et je suis partie de là. D'ailleurs, j'avais commencé une résidence dans une entreprise de métal où je découpais des dessins que je faisais. Et c'est en regardant les chutes au sol, je me dis, putain, c'est encore plus intéressant que ce que je fais. Et donc, tout est parti de là. Donc, en effet, la chute, le rebut, pour moi, est vraiment vachement important. Mais non, pas que ça. Évidemment, ce qui m'intéresse, et en fréquentant des salons industriels, je m'aperçois que, par exemple, tu as des... Ce que on peut appeler chef-d'œuvre remarquable, enfin des œuvres remarquables, ce sont des pièces qui sont fabriquées pour montrer le savoir-faire de l'entreprise. Et pareil, quoi, ça crée une forme incroyable. Tu vois, ça peut être des pièces métalliques avec tous les embouts, les fraisages, les emboutissages, tout ça mêlé, etc. Enfin, ça fait des drôles de trucs et ça crée de la sculpture, en fait. Donc, en effet, je peux également emprunter ce type de pièce. Et encore, une autre possibilité, c'est aussi intervenir dans les chaînes de production. Enfin, il y a plusieurs actions possibles et plusieurs types de matériaux qui peuvent être utilisés. Ouais.
Je ne savais pas que tu étais intervenu sur des chaînes de production. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Alors, dernièrement, justement, pour l'expo de l'âge du siège, c'était dans une entreprise de ciment, de fabrication de fibro-ciment, de tôle ondulée, tu sais. Et donc, une fabrication classique, on va dire, qui est pas novatrice, c'est assez simple. Et là, je suis tombée sur un entrepreneur qui était très, très cool, quoi, qui a été vachement amusé, qui était très drôle. Et en fait, je lui ai posé la question si je pouvais, comme la matière molle, en fin de compte, qui sort de... Donc c'est un mélange de ciment, de colle, de fibres de verre, de cellulose, etc. Donc qui se broie dans une cuve et qui sort, donc ça crée des sortes de pâtes, quoi, de grands films, tu vois, de terre et malléable, hein, c'est comme de la terre, en fait, tu la travailles comme tu veux, donc tu te dis, ben, pourquoi pas la déformer autrement que poser sur le moule habituel, etc. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, ce serait super de pouvoir la sortir. Enfin, on a commencé à délirer même tous les deux. Et ensemble, moi, je lui avais... Parce que la difficulté, c'était même de comment intervenir sur la chaîne de production sans trop la ralentir. Et il ne l'avait jamais fait. Et donc, il s'est pris au jeu. Et ensemble, on a trouvé un système pour sortir... Enfin, pour... baisser un peu la cadence et en même temps de pouvoir sortir une pièce de la chaîne et pouvoir la transformer en utilisant d'autres moules, en fait. Donc j'ai fait d'autres types de moules. Donc ce sont des plaques où j'ai mis des objets en dessous de cette plaque de fibro-ciment. Et donc c'est une plaque totalement cabossée que l'on retrouve. Mais c'était génial parce que le mec, tu vois, il est allé voir sur Internet comment on pourrait faire. Parce que c'était tout un bordel quand même. Il y avait la grue, tu vois. Ça, c'est vraiment génial. Et là aussi, récemment, je travaille dans une verrerie où c'est dans la cabine de pilote. J'interviens, sur les bouteilles, enfin... Non pas sur la bouteille, mais sur le décor de bouteille. Donc c'est excitant.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu archives, collectes, ouais. Stockes...
Qu'est-ce que tu en fais aussi.
Et comment tu les accumules au fur et à mesure.
Ouais.
Du coup, j'imagine qu'il y a des masses qui arrivent.
Absolument, ouais. C'est vraiment inquiétant. Parce que moi, quelque part, je prends ce qu'on me donne. Enfin, non, je choisis, c'est pas vrai. Mais je choisis, mais comme il faut faire vite, comme je disais, tu vois, je prends un maximum parce que je sais que je vais pas pouvoir, enfin, que le temps est précieux, que je vais pas y revenir 100 000 fois. Enfin, voilà, donc ça se fait à ce moment-là. Donc en effet, j'accumule énormément. Pour, par exemple, pour une expo, je vais accumuler beaucoup. Là, par exemple, pour la Jus Siège ou pour l'Art dans les Chapelles aussi, c'était beaucoup de découpes laser. J'en avais même une tonne de découpes laser. Et au moment de fabriquer la pièce, moi-même, j'ai créé du déchet, mais c'est presque la moitié, quoi. Donc, évidemment, je vais... Voilà, il y a une sélection. Donc, tout ça pour dire, c'est que déjà, pour la réalisation d'une pièce... moi-même, donc, je vais jeter ce qui ne m'intéresse plus. Ensuite, j'archive, en effet. C'est-à-dire qu'après le projet ou après que la pièce soit faite, je vais garder des objets références, en fait. Je me constitue petit à petit une sorte de matériothèque. Et puis, les pièces qui sont réalisées pour une expo, alors il y en a qui repartent en benne aussi. Ou je les vends chez le ferrailleur, donc ça me donne une petite économie. C'est très drôle parce que des fois, je me retrouve avec des pièces qui sont peintes quand même ou un petit peu customisées, quoi. Et alors, c'est assez rigolo le rapport parce que je connais des ferrailleurs maintenant qui sont... c'est assez sympa. Donc, soit je revends, soit je jette. Et puis, celles que je garde, que j'estime être des pièces... des sculptures qui sont autonomes. Et ça, c'est important, savoir qu'est-ce qui tient après, qu'est-ce que je peux garder. Et à ce moment-là, ben, je les bichonne et je les mets en caisse. Et je les archive, voilà. Et au final, j'en ai pas tant que ça.
J'ai l'impression qu'on a peut-être sauté une étape, parce que dans l'archivage, j'étais un petit peu, ou dans la manière de stocker aussi, au moment où tu es dans l'exposition, que là, du coup, j'ai l'impression qu'on était un petit peu sur les deux temps.
Oui, c'est ça. Alors, sur du le coup, montage et ensuite
de repréciser
sur
ma question, d'être sur le montage, de comment tu sélectionnes tes pièces pour les mettre dans l'exposition et si tu mets la manière dont tu fonctionnes là-dessus, quoi.
Concrètement. Après, c'est un travail, une fois de plus, je reviens sur de sculpture, en fait. Les formes m'interpellent, puisque je pars évidemment de l'existant. Donc moi, j'ai besoin de partir de cet état des lieux, en fin de compte, aussi sur l'architecture qui va recevoir ces pièces. Donc, mais en tout cas, l'objet, évidemment, va exister dans ce rapport d'assemblage que je vais trouver le dialogue en fin de compte entre elles. Et puis, moi, ce que je fais, c'est vrai que c'est un jeu d'assemblage et de collage, en fait, de matériaux et de formes. Et c'est toujours essayer de trouver un équilibre, en fait, quelque chose d'assez brutal, brutaliste. Enfantin, peut-être, dans le sens où je ne remets pas forcément en question trop mes gestes. Je regarde beaucoup, je fais peu. J'essaie d'assembler avec des moyens rudimentaires. J'évite peut-être des fois les soudures ou les colles, mais ça va être plutôt des moyens, des assemblages comme ça, visibles et un peu... sentiment d'archaïsme quelque part dans ces assemblages. Et voilà, donc dans la manière de travailler, en fin de compte, je pose et je regarde beaucoup. Après, comment ça fonctionne? Ça fonctionne dans un ensemble. C'est-à-dire qu'une fois de plus, dans l'âge du siège, en fait, c'était pas uniquement une pièce isolée que je regardais. C'était toujours l'ensemble, toujours cet œil un peu, peut-être, de peintre dans l'espace, à savoir que, ou même un œil aussi de scénographie, en fin de compte, et de composer un tableau ouvert dans l'espace, en fait. Ces objets participent, c'est comme des petits mots, des petits adjectifs, un petit peu, tu vois, qui seraient distribués dans l'espace. Oui, comme une scénographie, en fin de compte. Oui. Il y a vraiment ce rapport à l'ensemble, quoi, qui est...
Il y a aussi un petit peu de réunir dans un lieu d'expo, un chantier, un atelier, une usine, et en même temps un endroit où on regarde de l'art.
Oui, parce que en fait, comme je fréquente pas mal, donc, enfin, je sais pas si ça répond exactement à la question, mais je fréquente pas mal, donc les salons industriels, beaucoup les expos, galeries, musées. Les salons d'art contemporain et tout ça. Et parfois, j'ai ce sentiment qu'il y a, une proximité, en fait, de tous ces mondes, quoi. De monstration, en fait, des pièces. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que parfois, quand je vais au salon Mideste, où, en fait, on est là pour montrer un savoir-faire, présenter voilà, les techniques, etc., et je vais à la FIAC où on montre des formes qui sous-tend une pensée, en principe un champ d'information. C'est vrai que je trouve que tout ça, ça se mêle et c'est assez proche, quoi. Donc, il est vrai que... Mais je ne sais pas si c'est, ça répond vraiment.
Non, mais en plus, là, du coup, on peut... aller un petit peu sur le mode de présentation que tu as choisi spécifiquement pour l'âge du siège qui reprenait
ouais.
La muséographie
du
musée
ouais.
du Louvre-Lens et ouais. La galerie du temps.
Ouais. Quand je me suis imprégnée donc, de la région industrielle, en fait, des alentours de Valenciennes, tous les week-ends aussi, je faisais des visites culturelles, parce que c'est un peu ma vie, c'est ça qui m'intéresse, se nourrir. Et j'ai trouvé des petites pépites, d'ailleurs, d'architecture, de sites industriels. Et évidemment, j'ai fait les musées, et notamment le Louvre-Lens. Et ça a répondu exactement à la question que j'avais, c'est-à-dire que, ok, ouais, super, j'ai envie de présenter des pièces industrielles, mais je savais que dans l'espace, il fallait avoir une conception scénographique pour que ça tienne la route. Et en visitant au Louvre-Lens, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu comme dans un salon. C'est-à-dire que c'est un espace tout en longueur, les murs sont tout en métallique, on ne peut rien accrocher donc sur les parois. Et donc c'est une succession de plateformes, de socles, etc., sur lesquels donc, se retrouvent les œuvres. Et donc c'est très beau. Et je suis rentrée et j'ai été happée par les premières pièces les plus anciennes. Et petit à petit... Je me suis aperçue qu'en fin de compte, la galerie, j'arrivais pas à me concentrer. Et en fait, ma vision était à 360 degrés, quoi. C'est-à-dire que je regardais un tableau et en même temps, je voyais tous les gens autour, tu vois, qui déambulaient. Donc, quelque part, je zappais. Il y avait un peu cette... idée un peu comme dans un salon, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, il faut faire un vrai travail de concentration énorme. C'est un peu Wikipédia, quoi. C'est un peu la vision Wikipédia, c'est-à-dire on zappe et voilà. Et donc, c'était évident pour moi qu'utiliser et d'imiter totalement cette scénographie avait un sens, quoi. Je présentais un salon industriel et en même temps un musée. D'autant plus que le musée de Valenciennes a participé dans le projet en me passant pas mal de socles, enfin de capots plexi, puisqu'ils étaient en fermeture pour travaux.
Cette approche d'une mise en espace, ça révèle aussi autrement les objets, ça les transforme de
oui.
Statues, de nature.
C'est ça, ouais. Oui, ouais, parce que, en effet, la plupart des objets, il y a beaucoup de rebuts. des pièces empruntées, des pièces un peu remarquables. Il y avait donc ce que je disais, donc aussi des interventions de chaîne, mais des interventions de peu, on va dire. Et donc, mis sur socle, sur podium, etc., sur des B13, évidemment, je dis évidemment parce qu'il y a toujours un côté brutaliste aussi que j'aime donner à voir. Mais en tout cas, bon, ils étaient valorisés. Et donc, de les voir ainsi, ben, évidemment, ça devient des œuvres rares. Et encore plus sous capot, plexi. Enfin, évidemment, ça les met sur un statut d'œuvre ou de pièce archéologique que l'on regarde comme.
Pour les néophytes, B13, c'est du
Oui.
placoplâtre et dont tu avais gardé l'aspect.
Ah, complètement, ouais.
Est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de visite virtuelle de cette exposition?
Je tenais à ce qu'on rentre dans l'espace. Donc, tu avais une succession de socles et de cimaises et de plateformes de niveaux différents, donc calquées donc, sur la scénographie du musée du Louvre-Lens. Mais je tenais en effet à que l'on arrive face à un socle qui est présenté une Bactriane. Donc, c'était une petite sculpture. Qui est une copie achetée au Louvre-Lens, justement, qui est à taille réelle, et qui est une déesse de la fécondité, que j'avais remarquée, justement. Et donc, on arrive sur cette Bactriane qui annonce un petit peu l'exposition, elle, de moins de 1000 avant Jésus-Christ, et les pièces qui s'offraient à nous, qui étaient d'aujourd'hui, en fin de compte, qui parlaient de notre production d'aujourd'hui. Donc, c'était présenter un champ de l'art très vaste et parler de la temporalité aussi, l'origine de l'art. Et cette petite Bactriane était à côté d'une sphère en PVC expansé et qui était aussi un peu comme une œuvre, je peux parler d'œuvre, une œuvre remarquable d'une personne. Travaillant dans une entreprise qui faisait ça dans ses temps perdus. Donc voilà, donc il y avait ces deux pièces. Et ensuite, après, c'était un parcours, on déambulait entre les socles et les plateformes. Et on pouvait passer de pièces en métallique, de pièces en PVC, en caoutchouc, en bois, voilà, de toutes sortes et de formes multiples. C'était. L'idée d'un inventaire de formes et de matières et de savoir-faire et de techniques, etc., quoi. Et de pierre aussi, il y avait de la pierre.
Qui correspond à un bassin ouvrier. Est-ce que toi, tu t'identifies à cette figure-là de l'ouvrier?
Je me considère un peu. Ben, d'abord, je sais pas, je me considère, comme vous avez vu, c'est très hésitant. Je sais pas exactement parce que là où je suis, moi-même, dans ma place. Donc, c'est compliqué de répondre. Je dirais pas jusque-là parce que je suis, enfin, disons que je suis spectatrice. C'est comme si je voulais montrer, en fin de compte. Je ne suis que. Un intermédiaire, voilà mon réellement, c'est pour ça que j'aime ne pas transformer les pièces que je prends parce que voilà, elles sont belles pour ce qu'elles sont, ou je veux montrer vraiment ce qu'elles sont et pas les modifier et recréer de la forme dessus. Donc ça, donc oui, plutôt comme un passeur du travail de l'homme, parce que c'est une nature. Ma place, elle est quand même. C'est un regard posé, en tout cas, sur le travail de l'ouvrier, en tout cas. Et de l'ingénieur aussi. L'inventivité de. Tout ça me passionne, ouais. Me passionne et parfois m'horrifie. Parce qu'on pourrait parler de tout ça aussi.
Est-ce que tu pourrais nous parler de tes méthodes de cartographie?
La cartographie, elle se construit au fur et à mesure. Donc, évidemment, j'ai une carte de la région, j'ai une succession de petites gommettes, et j'ai toute la liste des entreprises potentielles que je pourrais visiter. Donc, je sais pas, c'est marqué en gommette jaune. Il y a toutes celles que je vais contacter, avec qui peut-être je vais pouvoir faire quelque chose ou pouvoir les rencontrer. Donc c'est encore une autre couleur. Et puis il y a celles avec qui vraiment je vais collaborer. Donc tout ça, en fin de compte, ça se rétrécit. Et donc la cartographie montre en fait la progression du projet. En fait, on voit justement cette temporalité entre... depuis le début du repérage et la réelle collaboration. Après, enfin, l'idée d'archivage dans mon travail est très présente, même si je suis pas une fan, enfin, je suis pas hyper précise, je suis pas hyper technique, je suis pas, enfin, mais je suis obligée quand même de me faire des listings comme ça, par région, par matériaux. Enfin voilà, j'ai plein d'archivages possibles pour pouvoir m'y retrouver, quoi. Parfois, il y a des artistes même qui me demandent, tiens, tu connaîtrais pas un tel type d'entreprise, etc. C'est vrai que j'en ai pas mal. Je commence à avoir. Parce que c'était un peu mon métier avant. J'étais accessoiriste, donc je pense que c'est aussi des. Voilà, c'est des méthodologies, je pense, qui viennent de métiers. Que j'ai pu avoir avant.
Est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont ça s'est passé quand les ouvriers ou les ingénieurs ou les directeurs d'usine sont venus à l'expo? Quels ont été leurs retours?
Alors ça, c'est vraiment fabuleux quand, évidemment, ces personnes-là viennent. C'est là où, une fois de plus, je dis, j'ai un pied dans le monde de l'art. Parce que c'est ma famille, enfin, dans le sens de ma famille, j'ai besoin de me nourrir de ce que je vois en art. Mais j'ai un pied aussi dans l'industrie. Donc c'est pour ça que lors d'un vernissage, d'une exposition, j'aime réunir ces deux mondes. Et c'est pas évident de faire venir les gens. C'est par expérience, c'est pas fréquent. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est fabuleux. Parce que là, on sent que cet échange, cette collaboration basée sur une gratuité a fonctionné. Et cette curiosité va jusqu'au bout. C'est-à-dire que, on a besoin de voir la forme, voir le rendu pour... Et c'est... Je me dis, ouais, là, ça marche, quoi. Donc ça arrive, à plusieurs reprises c'est arrivé, et je continue à avoir des contacts avec eux. Ouais.
Est-ce que tu as gardé une pièce de cette exposition?
Oui, j'en ai gardé plusieurs. Ouais, c'est pas facile les fins d'exposition, parce que là on doit regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc il y a des choix à faire et en effet, il y en a que j'ai gardé, il y en a que j'ai fait évoluer parce que voilà, elles avaient besoin pour devenir autonomes. Voilà, et beaucoup de choses soit ont été rendues ou soit sont parties en benne. Mais c'est le cycle naturel parce que je veux pas, en fait. C'est vrai, quand on travaille avec l'objet, je pense qu'il y en a plus d'un qui savent ce que c'est toujours cette peur d'être encombré, parce que j'aime bien moi aussi un espace vide. Donc il faut gérer ça, quoi.
Est-ce que tu as d'autres projets de résidence que tu as envie de mener dans cette continuité?
En fait, je me crée aussi des opportunités de résidence parce que j'ai pas forcément un projet de résidence. Enfin, là, je vous dirai après, mais. J'en ai. Mais à côté de cela, des fois, j'ai pas besoin d'attendre une résidence. Pour moi, c'est vachement important aussi de me sentir dynamique, c'est-à-dire pas attendre justement qu'un pro, voilà, qu'on soit, que d'être invité, etc. Donc, J'essaie de créer des interventions. Par exemple, là, je travaille dans une usine de verre sans forcément avoir un projet spécifique de résidence. Mais c'est un temps que je me suis créé, on va dire. Mais à côté de ça, je suis en train de faire une résidence depuis très peu de temps, pour toute l'année, où j'ai été invitée par le Macval pour réaliser une résidence en Val-de-Marne et en collaboration avec un lycée professionnel qui ont un atelier de mécanique. Donc c'est assez passionnant parce que là, c'est un autre format, on va dire, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire à longue durée, on va travailler en collaboration avec ces étudiants. Et moi, c'est toujours le même principe. Je vais rencontrer un maximum d'entreprises du Val-de-Marne pour voir les savoir-faire, pour comprendre qu'est-ce qui, voilà, l'industrie dans cette région. Et c'est passionnant. Donc à chaque fois, je plonge dedans, je rentre dans un monde, voilà. Et donc là, c'est un projet sur un an où il y aura donc une réalisation. Donc ça, c'est un work in progress là.
Et par rapport à ton propre atelier, ton propre espace de travail où on est aujourd'hui, comment ça s'articule?
Alors
Ce temps où tu es
ici,
dehors justement et...
ouais. Alors ici, en fait, c'est un lieu de un lieu pour voir, un lieu pour construire, un lieu pour construire lorsque j'ai un projet à finaliser, je construis. Et ça y est, ça devient un atelier de menuiserie, ça devient un atelier de métal. Enfin bon, bref, j'ai du matériel un peu partout, du bois, du métal, et surtout j'ai beaucoup de caisses là, avec dessus, dedans plutôt toute ma matériothèque quoi, en fait. Donc c'est des fragments d'objets, enfin c'est des objets qui sont en attente. Mais je ne stocke pas ici, je stocke en Normandie, dans un garage, et j'ai un autre atelier aussi en Normandie, un petit atelier. Donc voilà, parce que sinon, ce serait impossible. Ici, c'est des objets pas, c'est une matériothèque, ça me permet de construire, mais après, je range tout. Enfin, moi, j'ai besoin quand même que l'atelier soit suffisamment ouvert et modulable. D'où les caisses sur roulettes pour les matériaux, d'où voilà, les dessertes aussi mobiles, la paroi mobile. Voilà, c'est un lieu de production ponctuelle et surtout de regarder et de matériothèque, quoi.
Alors, peut-être qu'on pourrait faire le tour et regarder en parlant tous les matériaux, sculptures qu'il y a autour de nous.
Ouais. Alors là, par exemple, j'ai une sorte de petite desserte, on va dire, que j'ai dessinée pour le lieu. En dessous, il y a comment on peut dire, des caisses à roulettes où c'est gorgé de. Donc là, c'est l'aspect plastique. C'est des sangles de sérigraphie colorées. Enfin, elles sont colorées, mais c'est une entreprise que je connais depuis longtemps et je trouve que ces matériaux sont assez extraordinaires. Donc ça, c'est rempli. J'ai une autre caisse. Là, c'est plutôt de la découpe laser de tout type, hein. Bois, métal. Des plexis différentes épaisseurs, couleurs, enfin voilà, c'est tout ce qui est découpe
C'est
laser, ça.
des squelettes,
Ouais,
c'est le ce qui
squelette de
reste
découpe
après
laser, ouais.
la
Des
découpe.
fantômes, des pièces découpées aussi. Et il y a là, il y a là, ici, il y a, je sais pas, il y a une dizaine d'entreprises différentes. Et j'en ai ailleurs. Donc, évidemment, j'ai beaucoup travaillé avec les découpes laser. Hein, ça, ça se voit. Et puis j'en ai une autre avec c'est des pièces peintes en peinture époxy aussi. C'est bon, je sais pas. Enfin voilà, c'est. Alors par-dessus sur la desserte, ça me permet, voilà, c'est une sorte de desserte tout en longueur, d'une profondeur assez qui est petite profondeur, et ça me permet comme ça de mettre mes objets. Là, je les ai mis parce que, comme je vais travailler justement pour la résidence en Val-de-Marne, où je vais prendre l'objet, la chute ou l'objet emprunté, etc. Là, ce sont essentiellement des chutes. Et on va travailler sur l'idée du socle. Socleur. On va être des socleurs. Donc, on peut dire que c'est aussi des formes trouvées, enfin, c'est des schmilblicks, on ne sait pas ce que c'est, quel matériau, etc. Donc là, par exemple, là, c'est une chute de caoutchouc. C'est du tréfilage de caoutchouc, donc c'est une purge. Ce sont des purges plastiques de différentes entreprises, donc les aspects sont différents à chaque fois. Ça, c'est des granulés de PVC qui sont compactés ensemble. Là, c'est une sorte de purge, mais avec un filtre qui s'est collé à la purge. Alors, ça crée vraiment un truc vraiment étrange, quoi, une sorte de sculpture très belle, magnifique. On a du caoutchouc, on a.
Ce que je me demandais sur les rebuts chutes, c'est dans les petites PME, j'imagine et pour les petites machines, j'imagine qu'ils ne designent pas leurs rebuts,
ouais.
Mais pour les grandes industries en bout de chaîne,
ouais.
pour que ça prenne un minimum de place. À quel point c'est designé ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais pour que ça prenne un minimum de place, ça va sortir de
ouais,
cette forme-là.
Ah oui, alors,
et en fin de compte,
raison.
Là, tous les rebuts, ils vont au bout d'une chaîne et elles n'ont pas les mêmes formes.
Bien sûr.
Ils doivent quand même réfléchir à l'utilité, la forme, la moins encombrante aussi.
Mais par exemple, tu vois, je rebondis sur les purges là que tu vois, les grandes galettes. Et je les ai trouvées certaines comme ça en fait, parce que ces purges, c'est un poids d'enfer, ça prend de la place. Et là-bas, dans cette entreprise en Bretagne, pour pouvoir les bouger facilement, ils les piétinent avec le pied, tu vois, et ils en font des galettes, et pour les pousser dans les couloirs de l'entreprise plus facilement. Donc c'est des logiques de pas d'amortissement, mais de logique
de
voilà gain de place, ouais. Et ça m'a permis de faire des grosses galettes de mètres de circonférence pour une chapelle. Voyant comment ils faisaient, ben, je me dis, bon, tiens, on va en faire une grosse bouse aplatie, comme à votre habitude. Et c'était assez beau. Mais c'est vrai, alors je ne sais pas, je sais que c'est vraiment très. Il y a toute une filière hein, de recyclage, hein, maintenant, évidemment, dans l'industrie. C'est pour ça que c'est de plus en plus dur de récupérer des choses, parce que c'est le recyclage. Moi, j'interviens vraiment en bout de chaîne, pas dans la benne. J'aime pas chercher les choses dans la benne, parce que justement, comme tu dis, c'est. Enfin, voilà, c'est bout de chaîne. Mais la gestion de la du déchet en fonction des entreprises est différente. Le métal, par exemple, c'est pratiquement recyclé à 90%. Le plastique 100%, il rebroie pour refaire des granulés, bien qu'il y a quand même ce qu'on appelle des matières contaminées, hein, comme celle-ci par exemple, où elle est contaminée, donc là ils la jettent réellement. Donc c'est pas peut-être un pourcentage comme ça jeté. Le caoutchouc par contre est très difficile à recycler. Voilà, le verre est recyclable, sauf qu'il perd de sa pureté, donc la couleur du verre va être différente. Là, d'ailleurs, c'est assez beau parce que c'est des pièces, c'est des bouteilles coupées en deux. Et parce que c'est pour les tests d'épaisseur des parois, pour voir si, notamment ici, à certains endroits, si c'est pas trop fin, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une multitude de zones de test dans une entreprise, mais au final, il y a toujours la main, quand même, aussi, qui va vérifier, que ce soit l'œil, mais aussi la main. Donc après, il y a du repoussage, de l'emboutissage, de la découpe laser, de la découpe sur tube. Il y a des roulements de boîtes de vitesse de Peugeot, enfin, des purges, des copeaux de métal, des coulées de verre. Voilà, bon, ça c'est un petit inventaire, mais avec lesquels je vais travailler justement bientôt. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de mettre ça là. Ensuite là-bas, ça c'est une, un bout d'hélice récupéré dans une entreprise de peinture industrielle et de vernis. C'est une hélice qui a tourné dans une cuve pendant 15 ans, nuit et jour. Donc tu vois la plaque de métal en dessous, en inox, et tu vois l'épaisseur de la peinture, une grosse croûte terrestre, tu sais. On voit les stries de couleurs, tu vois, donc circulaires. Et cette pièce, elle est assez unique, hein. J'ai mis du temps pour la négocier, pour pouvoir la récupérer. Et en fait, elle s'est fracturée, et ce qui m'a permis de la récupérer. Donc là, je suis en train de la travailler pour la finir. Et donc, c'est une des quatre parties. Donc là, on voit...
Elle était présentée à Valenciennes ?
Ouais. Je les avais présentées, en fait, accrochées au mur. Là, on a donc au-dessus, sur la mezzanine, plusieurs, voilà, c'est des cartons remplis de, voilà, il y a tréfilage Borflex, petites pièces Borflex, il y a pas mal de Borflex, plexi, verre, des pièces de serverglace, des cornières, tubos laser, granules, limaille, col roulé. Alors, col roulé, parce que des fois, je ne sais pas comment nommer les choses. Alors, c'est toujours le problème de nommer, parce que, aussi, voilà, enfin, une forme, tu vois, col roulé, paf, moi, je sais, c'est cette forme. Quelqu'un d'autre n'en saura pas. Donc, d'ailleurs, je vais travailler au Val-de-Marne sur cette idée de nommer ces formes. Tout un travail de langage aussi.
Et pour Valenciennes, justement, les titres, il y avait des titres pour chaque pièce ?
Ouais, alors, voilà, c'est ça. C'est en fait une sorte de cadavreski. C'est exactement, je dirais, ce que je fais, moi, dans mes assemblages, dans mes sculptures. C'est-à-dire que ce sont des assemblages comme ça, assez très, très simplifiés. C'est-à-dire on reconnaît chaque élément assemblé, donc, de manière, comme je disais, un peu... très, très simple et visible surtout. Et donc le titre, ben, ça va être je nomme en fait le nom de l'entreprise. Donc ça va faire des mariages. Je crée des mariages. Ça va être Omniplace, Omniplace, Borflex, Valkeman. Ça va être PSA, A-Technique, Saverglace, non, mais ou sinon il y en avait où vraiment j'avais fait tout un monticule comme ça de pièces. Donc là, on arrivait à une phrase entière avec tous les noms des entreprises, par exemple, ou la légende, par exemple, de toutes les pièces dans l'expo. T'avais donc, je décrivais chaque pièce aussi. Chaîne dégressive, purge noire, découpe laser en polyuréthane, etc., etc. Enfin, et donc ça crée en fait du langage, et c'est ça qui m'amuse, en fait. Peut-être, à la limite, il faudrait que je fasse des pièces en fonction de partir du titre pour la concevoir. Enfin, tu vois, cette idée, ça m'intéresse. D'où aussi, j'aime bien le travail de Guy de Cointé, même s'il est loin de mon travail. Mais il y a ce rapport au langage qui m'intéresse quand il parle de phonèmes, dans ces éléments, en fait, qui va activer justement aussi par ses performances. Et voilà.
Super. Eh bien, merci beaucoup. Et pour terminer, je crois que tu nous as choisi une musique. Peut-être que tu peux nous la présenter.
Moondog, c'est Caribea. Et parce que j'aime beaucoup sa musique, je l'ai découvert assez récemment. Et c'est un personnage qui devait être extrêmement original. Je crois que ça date des années 20, si je ne me trompe pas. À vérifier, mais c'est surtout, c'était vraiment un original qui se baladait dans les rues de New York habillé en indien, et c'est une musique improbable comme ça, de son on entend parfaitement chacun des instruments, enfin c'est une sorte d'assemblage aussi de plusieurs inspirations comme ça musicales.